Je suis particulièrement heureuse d'accueillir pour cette table ronde hommage aux frères Grimm, aux deux frères Grimm, dont nous fêtons en 2012 la première édition du premier tome des contes, que moi j'appelle contes de l'enfance et du foyer, mais tu nous diras, Natacha, ce qu'il en est. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés les deux spécialistes français qui étaient les plus importants pour cette table ronde. D'une part, François Mathieu, qui est l'auteur de l'unique biographie de Grimm que vous vous empresserez d'aller acquérir après cette table ronde, parce que c'est un petit livre soit, mais c'est une vraie promenade à l'intérieur de l'histoire des frères Grimm, avec une atmosphère. Avec moi, j'ai lu ce livre comme un roman d'une traite. On y apprend des choses et en plus on prend beaucoup de plaisir à cette écriture littéraire et à ce petit voyage ou ce grand voyage dans le passé. Heureuse aussi d'avoir de l'autre côté Natacha Rimasson-Fertin. Natacha est germaniste, elle enseigne à l'université de Grenoble et là. Non, d'ailleurs, c'est même pas dans ce cadre-là que tu as fait ça, si
Non.
Alors, c'était pas la peine. Voilà. Et donc, oui, parce que François Mathieu n'est pas qu'auteur de cette biographie, il est aussi traducteur de nombreux livres et auteur aussi de livres et a longtemps été critique littéraire. Et donc, je reviens vers toi et vers ces livres que vous ne pourrez pas acheter ici parce qu'ils n'y sont pas. Mais Natacha nous a offert la première traduction complète des contes de Grimm, une traduction avec les commentaires, avec les notes des frères Grimm et avec un travail critique considérable, d'abord de préface, d'introduction, d'annexe, de présentation de toutes les préfaces des différentes éditions, mais avec aussi, sous chaque conte, les variantes, ce qu'ils avaient enlevé, rajouté, etc. Donc c'est véritablement ce coffret pour les amoureux de Grimm, c'est la Bible, la seule, l'unique, et qui existe aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais maintenant m'arrêter et leur laisser la parole et demander dans un premier temps à François Mathieu de nous emmener, de nous faire faire un petit voyage à rebours dans le temps, dans cette Allemagne où dans laquelle vivaient, évoluaient les frères Grimm pour qu'on puisse comprendre ce qui les a amenés vers le conte. Et ensuite,
vaste programme. Donc, pour fixer les choses, ils sont nés.
Tant que tu parles, hein, parce que les gens ne te voient pas.
Mais c'est peut-être pas intéressant de me voir. Ils sont nés l'un en 1785 et 1786. Et donc, vous apercevez quelle est la période historique qui a été la leur lorsqu'ils avaient une vingtaine d'années. C'est l'occupation napoléonienne. Ils sont nés dans une famille bourgeoise où le père était, entre autres, a été bailli de la petite ville. Ils sont nés dans la Hesse, donc c'est dans l'Allemagne qu'on peut appeler l'Allemagne de l'Ouest centrale, et donc dans un milieu bourgeois, mais en même temps, le père mourant très tôt, eh bien, il a fallu qu'il y ait pour qu'il puisse continuer à vivre de façon décente, il a fallu qu'il y ait un certain nombre d'aides, et en particulier une sœur de la mère les a financièrement beaucoup aidés et a permis qu'ils fassent des études. Je reviens à la période napoléonienne. Nous, évidemment, dans nos livres d'histoire, on nous a abreuvé du mythe Napoléon, n'est-ce pas, comme le grand héros, parce que nous sommes sans doute un pays où on a besoin de grands personnages. Mais évidemment, la chose n'a pas été vécue de la même façon en Allemagne. Et il faut s'imaginer ce pays qui est un pays occupé. Et quand on vit dans un pays occupé, je pense que la réaction d'un certain nombre de personnes qui réfléchissent, c'est de résister. Nous avons connu cela, n'est-ce pas ? Moi, je suis né en 1941, donc je suis un peu jeune, évidemment, pour avoir connu vraiment la résistance. Mais évidemment, nous savons aussi que nous vivons et que nous avons, politiquement parlant, certains personnages qui nous a pas mal détruits de nos acquis de la résistance. Fin de l'aparté. La résistance, c'est, il y a plusieurs formes, mais il y a la résistance armée et puis il y a la résistance intellectuelle. Et un certain nombre d'intellectuels, notamment deux poètes, qui sont Clemens Brentano et Achim von Arnim, eh bien, pensent que, d'une part, il faut sauver par rapport à l'occupation française le patrimoine allemand, et par ailleurs, qu'il faut donner à cette Allemagne, qui est alors une Allemagne morcelée, ce sont à peu près 300 États dans lesquels on vit de façon très, très autonome. Il faut penser que ici nous sommes à Épinal, mais à Raon par exemple, eh bien il y aurait une autre monnaie, il y aurait d'autres unités de mesure, etc., etc. Donc cette Allemagne ne vit pas comme la France vit alors une unité. Et donc ces deux personnes, eh bien, pensent, veulent, d'une part, donner un patrimoine à l'Allemagne, et d'autre part, entretenir une nouvelle idée, qui est l'idée « nous sommes une nation » et « nous devons construire une nation ». En intellectuel, donc, ils pensent d'abord, eh bien, à la parole, à ce qui s'écrit. Et donc, par exemple, Achim von Arnim, eh bien, va recueillir les chants des marins sur le Rhin. Et puis Clemens Brentano aussi travaille sur, on va dire, sur la poésie populaire, et ils vont sortir un ouvrage. Et ils s'adjoignent les deux frères Grimm, qui ont alors une vingtaine d'années, et qui vont travailler sur les contes comme devant faire partie de ce patrimoine allemand. Je m'arrête là.
Bon, eh bien, bon, c'était bien, là, j'écoutais, j'avais plus rien à faire.
Mais je peux continuer, mais il faut pas que j'occupe la parole.
Non, mais c'est pas occuper la parole. J'ai volontairement souhaité qu'il n'y ait pas beaucoup de monde à cette table ronde parce que ça n'avait aucun intérêt, pour que vous ayez l'un et l'autre le temps de permettre au public intéressé d'avoir une vision un petit peu plus que superficielle, pas uniquement comme ça superficielle. Mais je te passe la parole, Natacha, puisque nous arrivons après les chansons au conte, pour que tu puisses nous parler donc du rapport des Grimm au conte et de la façon dont les choses vont se passer.
Il faut savoir tout d'abord que les frères Grimm, initialement, sont juristes, hein, ils font des études de droit, et c'est notamment par leur professeur d'histoire du droit, qui n'est autre que le beau-frère de Brentano, collecteur de chants populaires, qu'ils en arrivent au conte. Enfin, c'est ce professeur qui fait le lien entre les collecteurs, ces collecteurs de chants populaires, et les frères Grimm, qui s'attellent à la tâche vraiment avec grand enthousiasme, au point qu'ils finissent par renoncer. Je crois que c'est exactement 1805-1807 qui finissent par renoncer à leurs études de droit pour se lancer vraiment dans cette entreprise de collectage des comptes, alors dans un but scientifique. Alors finalement, puisque alors François ne l'a pas dit maintenant, mais ce ne sont plus les deux premiers poètes qui vont publier la suite de ce recueil de chants sous la forme d'un recueil de contes populaires, mais ce seront les frères Grimm. Ils ont en 1810 un ensemble de 54 récits qu'ils publient, que Arnim les incite à publier en disant: ne cherchez pas à l'exhaustivité, publiez pour que ça serve de modèle. Et donc c'est vraiment l'impulsion majeure. L'idée n'est pas de gagner de l'argent avec ce livre, mais c'est de le rendre public pour susciter le plus grand nombre possible de collectes similaires dans toutes les terres de langue allemande, toujours dans ce but de construire une idée, cette nation allemande, dans un sens culturel. La nation allemande, à l'époque, a, pour les frères Grimm, à la suite de Herder, un sens culturel. C'est une culture, une histoire commune, et les contes, la collecte de contes va jouer le rôle de ciment. Ça va être un élément fédérateur très important. Donc le recueil va évoluer, il y en aura 7 éditions du vivant des frères Grimm qui vont considérablement varier au sens où le recueil va s'étendre. On passe d'un ce premier ensemble de textes, de 54 textes, à un total de plus de 200. Alors l'édition finale, la dernière édition supervisée par les frères Grimm eux-mêmes, 1857, compte 200 compte, en réalité 201 parce qu'il y a un 151 avec une petite étoile. Alors apparemment, on les comprend, ils n'auraient pas voulu briser le compte rond des 200 en arrivant à 201 pour la petite histoire. Donc 200 contes plus 10 légendes pour les enfants, donc c'est vraiment des vies de saints à l'usage des enfants, donc une somme de 210 textes. Et en réalité il y en avait plus initialement, mais les frères Grimm ont supprimé eux-mêmes un certain nombre de récits. La raison, une des raisons essentielles, et là je reviens à cette idée de nation, dans leur préface ils disent: nous voulons, je paraphrase à peine, nous voulons rendre service à l'histoire de la poésie allemande. Donc il y a vraiment cette démarche identitaire, cette démarche nationaliste d'une certaine manière, donc en réaction à l'occupation française. Et donc suite à la première édition, ils vont faire un tri, une sélection au sein de leur recueil pour en supprimer les textes qui ont une origine étrangère et en premier lieu française, parce que disparaissent de leur recueil notamment des textes, on comprend tout de suite pourquoi, des contes intitulés Blaubart, pas vraiment besoin de traduire, Barbe Bleue, ou Le Chat Botté. Ça ne veut pas dire qu'ils suppriment absolument tous les textes qui ont cette origine française, puisqu'on a chez eux un Cendrillon, on a un certain nombre de textes pour lesquels on sent l'influence du conte de fées de Perrault, du conte de fées à la française, mais en tout cas les textes d'origine étrangère, il y a des récits étiologiques, donc des récits d'origine, par exemple l'histoire du rossignol et de l'orvet, donc pourquoi l'orvet, pourquoi ce serpent est aveugle, il a été supprimé manifestement en raison de cette origine étrangère puisqu'il est originaire de Sologne, et aussi en raison de son caractère violent. C'est un conte où on a affaire à de la violence gratuite. Et donc là, c'est un des autres aspects qui a eu une grande importance dans la réception de cette première édition des contes. Les frères Grimm poursuivaient ce but scientifique avec un titre, Kinder und Hausmärchen, conte pour les enfants et la maison. Alors personnellement, j'ai opté pour cette traduction parce qu'on a vraiment ce destinataire enfantin qui est affirmé dès la première édition, et notamment certains de leurs amis, puis un certain nombre d'intellectuels leur ont reproché de vouloir servir deux maîtres à la fois, ce qui manifestement n'était pas très réussi selon eux, c'est-à-dire proposer un recueil de contes pour enfants avec un appareil critique, puisque, alors on a parlé de cette première édition qui remonte à 1812 pour le tome 1, 1815 pour le tome 2 et 1822. Alors la toute première édition, dans le même volume que les contes, il y avait des commentaires des frères Grimm qui étaient placés à la fin. En 1819, c'est la deuxième édition des contes, toujours en deux volumes, et ils sont accompagnés cette fois de commentaires qui sont placés dans un troisième volume. Donc l'édition allemande de référence qu'on trouve chez Reclam, c'est des petits livres jaunes, je ne sais pas si certains les connaissent, c'est l'équivalent des éditions de poche. On a un troisième volume uniquement composé de notes, et ces notes, elles sont vraiment absolument fondamentales parce qu'elles montrent à quel point les frères Grimm ont fait œuvre de scientifiques. Alors ils ont réellement inventé ce que c'est que le conte à l'époque, ce qui est le conte populaire. Ils ont collecté à la manière dont ça pouvait se faire à l'époque. On aura certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, ce sur quoi je voulais insister maintenant, c'est que non seulement il crée ce genre nouveau, mais il crée aussi son étude par plusieurs choses, par leurs préfaces, qui sont vraiment des textes fondateurs, où ils vont vraiment définir le conte au moyen de métaphores végétales pour montrer à quel point c'est quelque chose qui s'autogénère, qui porte son origine en lui-même, c'est à peu près ce qu'ils disent, qui pousse comme une plante et qui est aussi naturel. Et là, c'est une image intéressante qu'ils utilisent, qui est comme la pluie qui tombe du ciel. Donc ils utilisent cette image pour se dédouaner. Alors ils suppriment certains contes violents, certains contes qui peuvent paraître un peu amoraux, par exemple le conte de Réponse que vous avez cité tout à l'heure, dans la première édition. Réponse, très clairement, dit à sa marraine, à la fée, qu'elle ne rentre plus dans ses vêtements, pour une raison bien claire. Ce détail va disparaître des éditions ultérieures. Donc on a vraiment, au fil de ces 7 éditions, un recueil qui va de plus en plus rejoindre le destinataire qui est le sien, le public enfantin. Et ça va se manifester par une modification du style. Il y a beaucoup de diminutifs, beaucoup de discours directs qui vont être insérés, des dialogues, pour dramatiser un petit peu, rendre le texte plus vivant. Et... voilà, j'ai perdu le fil, excusez-moi, ça reviendra, c'est pas grave. Donc en tout cas, le texte évolue et je vous citais cela pour vous parler des modifications. Bon, peu importe, ça va revenir, on y reviendra, je suis désolée.
Tu veux que je reprenne?
Alors peut-être, oui, quand l'idée reviendra, je reprendrai le fil de ma pensée. Je vois. Il y a beaucoup de fils sur lesquels on tire en même temps, comme ça.
Bah oui. Non, en fait, moi, je voulais, avant de parler des éditions, qu'on puisse parler de ce fameux collectage, entre guillemets, parce que j'ai été personnellement très surprise. Comme beaucoup, je suppose, à la suite d'ailleurs des folkloristes français qui maintiennent aussi le mythe et des frères Grimm eux-mêmes, visiblement, je pensais qu'ils avaient été faire un vrai collectage, même si c'est dans un état ou deux états, peu importe, mais au moins qu'ils avaient collecté de la bouche des paysans, comme le feront à leur suite tous les collecteurs européens du 19e siècle. Mais en fait, ce n'est pas le cas, François.
Oui, ce n'est pas le cas. Effectivement, nous partons tous de cette idée qu'ils ont pris, je l'ai déjà dit hier, ils ont pris leur sac à dos, alors je peux remplacer sac à dos par baluchon, et qu'ils ont mis leurs gros souliers de marche et leurs culottes de cuir, et qu'ils sont partis dans les campagnes interviewer, magnétophone à la main, les braves vieilles dames qui racontaient des contes à la veillée devant une cheminée. Et c'est corroboré cela par deux illustrations que nous qui travaillons sur les frères Grimm nous connaissons très très bien, qui montrent notamment une vieille dame assise, elle doit être devant un âtre, si mes souvenirs sont bons, avec des petits-enfants autour d'elle, et donc elle représente la conteuse idéale. Donc on part tous de cette idée, et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que ça n'est pas vrai. Alors, bon, c'est vrai que dans une de ses premières préfaces, Wilhelm Grimm raconte qu'ils sont allés interroger les vieilles personnes pour se faire raconter ces histoires. Bon, et puis, en fait, bon, il n'en est rien, et comment ont-ils collecté ces contes? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a la première, ce sont des gens du livre. Toute leur vie, ils ont été des bibliothécaires notamment, ou des universitaires. Donc, si parmi vous, il y a des bibliothécaires et des universitaires, d'abord, je vous félicite. Et ensuite, je sais très bien que vous, comme moi, et puis comme les frères Grimm, eh bien, nous travaillons à partir des livres. Donc il y a les livres dans lesquels il recueille un certain nombre de ces vieux contes qui frisent parfois la légende. On dira quelque chose tout à l'heure sur la différence entre le conte et la légende. Donc il y a par exemple dans le premier volume une petite histoire qui se présente d'après eux comme étant un conte qui est en fait un fait divers qui raconte comment des enfants qui voyant tuer le cochon autour d'eux un jour décident aussi de jouer à tuer le cochon. Et donc, comme ils n'ont pas de cochon sous la main, eh bien, que prennent-ils ? Ils prennent l'un d'entre eux et l'égorgent. La suite du conte, vous pouvez le trouver dans cet ouvrage qui est ici, puisque dans l'appareil, je cite intégralement le dit conte, enfin je traduis le dit conte, donc s'il y a parmi vous des fanatiques du fait cochon. Divers et du tuage du cochon, eh bien, vous pourrez vous régaler. Mais ça ne dure qu'une page. Donc, la deuxième source, après les livres, c'est tout simplement ce que chacun d'entre nous ferait. Nous avons un cercle d'amis. Et nous parlons autour de nous en disant, écoutez, j'ai un projet qui est celui-ci, je voudrais collecter des contes. Et alors là, immédiatement, il y a des mains qui se lèvent, je les vois qui se lèvent, et les jeunes femmes qui étaient leur bonne copine disent « Oh, mais moi, je me souviens de... » Et hop, les deux frères prennent leur crayon et prennent en note. Je signale que la dactylographie n'existe pas encore, mais qu'elle va être créée pendant la vie des frères Grimm, mais ils ne s'en serviront pas. Ils ont un système, enfin c'est surtout Wilhelm auquel il faut penser toujours, il a un système de notes pour prendre rapidement, et puis ils se font raconter les histoires plusieurs fois. Et ces personnes qui les leur racontent les savent tellement bien que pratiquement elles prononcent tout le temps les mêmes paroles. Voilà. Et qui sont ces jolies dames et ces jantes dames ? Eh bien, ce sont tout simplement des jeunes femmes de la bourgeoisie et de la petite noblesse, dont une grande partie est d'origine huguenote. Une note de bas de page. Donc, Édit de Nantes, en 1685, les protestants français sont chassés ou s'ils ne se convertissent pas, eh bien, doivent fuir la France. Et ça tombe très bien pour les États allemands qui ont vécu un certain nombre de pestes successives, et puis la fameuse guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, qui a tapé dans la population. Et donc on a besoin de main-d'œuvre, et on a besoin singulièrement de main-d'œuvre qui, économiquement parlant, serait intéressante. Donc certains métiers, les métiers du tissu par exemple, les métiers des métaux, etc. Enfin, c'est une conférence en soi, ça. Donc, ces jeunes femmes, eh bien, ont un bagage qui leur vient en partie de leur famille. Alors là, la troisième source, et puis j'arrête là pour ne pas mobiliser la parole, et comme je sais qu'il y a plein de choses à dire qui sont intéressantes. Une troisième source, et puis une quatrième, ça va, vous suivez ? Bien. Donc une troisième source qui est une certaine dame rencontrée et qui a un nom de famille qui est prédestiné pour les erreurs de certains critiques imbéciles. Elle s'appelle Fiemann. Et donc tous ceux qui parmi vous ont fait de l'allemand, je sais que vous en avez tous fait, eh bien le mot Mann c'est l'homme et Vieh c'est le bétail. Donc, c'est le marchand de bestiaux. Donc, évidemment, cette dame, puisqu'elle s'appelait Fiemann, eh bien, elle était une bonne paysanne qui tuait elle-même ses cochons, ses vaches, etc., etc. Bon, et ce qui n'était pas du tout vrai, hein, c'était une bonne bourgeoise qui, par l'intermédiaire du pasteur de la paroisse protestante dont il faisait partie, eh bien, qui par cet intermédiaire avait fait la connaissance et connaissait, avait un bagage. Bon, Natacha est beaucoup plus forte que moi sur les statistiques, d'après ce que j'ai compris. Elle connaît les nombres, donc elle sait combien il y a de comptes qui, dans le volume 1 et le volume 2, viennent d'elle. Et cette femme, d'ailleurs, elle est morte quelques semaines après l'édition du deuxième volume de la première édition. Et enfin, ce que vous attendez tous. Ah oui, j'oublie, il y a un soldat aussi qui leur a livré deux contes, donc ça va faire cinq. Eh bien, vous attendez tous que je vous parle vraiment de la vieille conteuse qui leur aura apporté, eh bien, qui leur aura apporté en fait deux contes simplement. Et ils avaient appris qu'il y avait dans un hospice de personnes âgées une vieille dame qui était une conteuse absolument extraordinaire. Donc, ils entrent en contact, veulent la voir, la femme refuse, car enfin, on ne raconte pas des imbécilités pareilles à des gens bien mis. Bon, ils envoient leur sœur, parce qu'ils ont une sœur qui est très gentille, hein, qui traverse toute leur vie. Le roman des frères Grimm et sœur, c'est un monument d'histoire familiale. Et donc, ce n'est pas notre propos, mais je vous le signale quand même. Et donc, ils envoient la sœur, même problème, elle est habillée comme un certain nombre de femmes là, qui traversent c'est la bulle livre, je crois, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas, et qui nous surprennent par leur habit. Bon, et donc, la vieille dame refuse. Subterfuge, on entre en relation avec le directeur de l'asile de vieillards. C'est pas joli comme mot, mais j'ai que ça en tête à l'instant. Et il décide d'envoyer les deux enfants du directeur, qui ont l'âge d'écouter des contes, et en leur donnant pour mission de faire raconter à la vieille dame les contes qu'elle connaît, donc les deux contes qu'elle connaît. Et ils vont se faire raconter plusieurs fois la chose, et on leur a dit, hein, surtout, faites travailler votre mémoire, et rapportez-nous fidèlement ce... Voilà, j'arrête là.
Quelle déception. Oui, juste un mot, et pas dans le cadre du rapport avec Charles Perrault, parce que ça vient de me venir comme ça, mais il me semble que la référence en termes de contes en Europe, c'est quand même les contes de Mamerlois. Ce sont les contes de Perrault, qui lui-même dit qu'il les a collectés lors d'une veillée, enfin, etc., etc. Bon. Et si je me souviens bien, le frontispice de Perrault, c'est la grand-mère avec tous les enfants autour d'elle. Donc, il est possible, ne serait-il point possible que, voilà, qu'il y ait une relation aussi avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même, ce sont des contes de nourrice. Hein. Les contes de Mamerlois, c'est les femmes qui jacassent, donc nous sommes dans des contes de nourrice. Est-ce que, Natacha, tu penses qu'il peut y avoir une relation avec Perrault, puisque un certain nombre de contes de Perrault sont repris, même si après, il les retire de son édition?
Alors, de toute façon, c'est bien le sens de ce que vient de dire François, c'est que toutes ces jeunes femmes de leur entourage d'origine huguenote, donc d'origine française, on sait que ce sont des familles où l'on parlait le français, évidemment qu'elles connaissaient ces contes de Perrault. Donc il y a vraiment parfois des filiations directes, mais dont les frères Grimm sont très conscients eux-mêmes. Et ce sont des choses qu'ils signalent eux-mêmes dans leurs notes. Alors c'est une petite chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand je parlais de leur volume de notes, très rapidement pour le rappeler. Ils font ce qu'on fait aujourd'hui en tant que chercheur, ce que fait tout chercheur, c'est-à-dire un état de la recherche. Et c'est absolument impressionnant parce qu'il balaye vraiment tous les pays de l'Europe dans un sens très large. Ils ont des connaissances phénoménales des langues étrangères. Ils entretiennent une correspondance avec un nombre important, alors c'est presque une vingtaine de sociétés savantes, sinon plus. Donc ils sont vraiment en contact avec tous les savants, tous les érudits de leur époque qui s'intéressent aux contes. Et ils dressent un panorama vraiment très très impressionnant de toute cette littérature dans leur tome 3. Et puis, donc, ce sont les aléas du direct, vous m'excusez le petit blanc de tout à l'heure, mais ce dont je voulais vous parler en disant qu'ils édulcorent d'une certaine manière leur recueil, ils suppriment des choses qui peuvent être jugées tendancieuses, des choses violentes, par exemple ce conte des enfants qui jouent à tuer le cochon, mais ils ne suppriment pas tout. Si vous lisez la version de Cendrillon des frères Grimm, c'est pas du tout comme chez Perrault. Les belles-sœurs n'épousent pas des seigneurs de la cour le jour des noces de Cendrillon. Vous ne serez pas déçus. Elles se coupent chacune un bout du pied pour essayer la petite pantoufle. Les Grimm n'épargnent pas les détails. On nous parle des bas blancs qui sont rougis par le sang qui dégouline. C'est quand même assez violent. Mais ils se couvrent dans leur préface en disant « Nous avons supprimé tout ce qui pouvait être jugé tendancieux. » Mais la violence est dans la nature, c'est comme la pluie qui tombe du ciel, et c'est l'image est d'eux. Et celui qui trouve que ces plantes sont trop fragiles et qui préfère les arroser avec de l'eau bouillie chez lui, il peut le faire, mais il ne peut pas exiger que la pluie cesse de tomber. Donc c'est vraiment cette métaphore naturelle végétale qu'ils utilisent à maintes reprises qui est vraiment très importante et qui définit la nature du conte. Alors Perrault, évidemment, on était dans un domaine tout à fait différent, puisque les contes de Perrault sont des jeux de salon, une sorte de jeu de société. On est en 1697, donc la problématique est complètement différente. Mais évidemment, ces contes sont connus, bien sûr, de ces jeunes femmes issues de la haute bourgeoisie, et ils sont connus bien plus largement, puisque l'hégémonie française à l'époque est telle que toute l'Europe, toutes les cours et les principautés de ces plus de 300 États et royaumes allemands sont organisés sur le modèle de la cour de Versailles, qu'on y parle le français. Donc toute l'Europe lit les contes de Perrault dans le texte, et à la suite les contes des Mille et Une Nuits dans la traduction de Galland, hein, dans les premières décennies du XVIIIe siècle. Donc cette matière et la matière française, l'influence française est extrêmement présente. Donc pour les frères Grimm, ça va être extrêmement important d'affirmer l'existence de cette tradition allemande. Ce qu'ils vont faire aussi, et là c'est vraiment un élément absolument nouveau, en publiant des contes en dialecte. Dans le recueil figure une dizaine de contes en dialecte, aussi bien du nord de l'Allemagne que de la Suisse. Donc véritablement, ce sont des contes qui ont toute leur saveur lorsqu'on les lit à haute voix, parce qu'on n'est pas du tout dans les sonorités dont on peut avoir l'habitude quand on est en contact avec l'allemand d'aujourd'hui. Et les frères Grimm disent bien eux-mêmes aussi dans leur préface que s'ils avaient pu collecter encore plus de ces récits en dialecte, le recueil aurait gagné. Pour revenir au collectage et à ces figures de conteuses évoquées tout à l'heure, on parlait du frontispice de Perrault. Le frontispice de leur deuxième tome, c'est la figure de leur conteuse idéale, donc cette fille manne. Alors à l'époque, quand vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai que on ajoutait souvent le suffixe « in » à la fin des noms de famille. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais c'est vrai qu'eux-mêmes, ils ne l'appellent pas « fiman », ils l'appellent « die Femenin », donc en fait, ça féminise le nom de famille, mais sans doute que ça a dû contribuer à cette confusion qui s'est créée autour de l'origine sociale et de la profession. En tout cas, en parlant d'iconographie, encore une fois, il existe un tableau qui a alimenté ce mythe où on voit, qui est reproduit d'ailleurs dans l'édition publiée chez José Corti, intitulé « Les frères Grimm chez Dorothea Fiemann », où on les voit manifestement chez cette femme en train de se faire raconter des histoires en plein collectage. Or, on sait qu'ils n'ont jamais mis les pieds chez elle et que c'est cette Madame Fiemann qui est venue chez eux justement par l'intermédiaire du pasteur. Donc en fait, on a vraiment ce mythe qui a très bien fonctionné, que les frères Grimm
en leur apportant des paniers de salade.
Voilà, en venant apporter ses légumes à la ville. Et alors, elle avait son café, je crois. Elle en profitait pour se faire servir son café chez les frères Grimm. En tout cas, donc voilà, ce mythe a été créé par eux-mêmes aussi, puisque dans leurs notes, dans les notes qu'ils publient, ils indiquent une provenance géographique. pour chaque récit. C'est ce à quoi ils se limitent. Ils disent récit originaire de S, originaire de telle région. Alors à l'intérieur de la S, on a vraiment des petits pays qu'ils indiquent comme ça. Et là où vraiment on voit que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que dans leur exemplaire de la première édition, ils indiquent en marge, et évidemment que c'est émouvant quand on a, alors ne serait-ce que le facsimilé, mais bon, l'exemplaire original c'est encore mieux, mais alors le facsimilé d'ailleurs, j'en profite pour le signaler, il est accessible sur Internet, et ce sont cet exemplaire-là qui fait partie, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis maintenant 4 ans si je ne me trompe pas. En tout cas, on voit qu'ils indiquent à la main, en marge, qui leur a rapporté chacun de ces comptes et quand. On a des prénoms et on a des dates. Sauf qu'ils le mettent uniquement dans leur exemplaire, puisque selon leur théorie et selon leur image du compte, c'est quelque chose qui appartient au peuple. Donc évidemment, c'est universel, on ne peut pas indiquer de provenance bien particulière. Et comme ils n'indiquent que le prénom, ça a créé des confusions, puisque donc, il y avait cette Dorothea Fiemann, et il y avait aussi les prénoms de leurs amis, et un prénom Marie a semé le trouble pour des générations de chercheurs, puisqu'il était, c'était le prénom d'une de ces jeunes femmes qu'il connaissait, et c'était aussi le prénom d'une des servantes. Alors pendant très longtemps, on a cru que c'était un conte raconté par la vieille Marie, qui était une servante chez une de ses familles amies, or c'était une des jeunes filles. Donc ça a un petit peu contribué à faire croire à ce mythe.
Voilà, peut-être pour l'instant. À côté de François, les cités tout à l'heure, à côté des contes, on peut aussi évoquer les légendes allemandes, ça s'appelle Tradition allemande, il me semble, les deux volumes.
La première traduction française, 1837, les intitule Tradition allemande.
Tradition allemande.
Oui.
Est-ce que cette édition des traditions allemandes est le fait des deux frères Grimm, ou là, est-ce qu'on n'a plus que Wilhelm qui travaille là-dessus?
Il y a une sorte de séparation, peut-on dire, hein, du travail. Il y a un scientifique parmi les deux, c'est Jacob. Donc celui qui va continuer vraiment à travailler dans le sens scientifique sur la langue allemande, donc qui va être l'inventeur d'une immense grammaire allemande en plus de 4000 pages, qui va travailler sur le droit allemand, bon, pareil, un certain nombre de volumes. Bon, les légendes, ils sont les inventeurs... Je parle de l'Allemagne, ils sont les inventeurs du partage entre le conte et la légende. Avant eux, on parle tout simplement, on fait un mélange, tout est conte et tout est légende. Ils font donc, hein, je tiens plus à ce qu'on dise que c'est Wilhelm, sur le fait que la légende ou le conte? Allez, le conte. Le conte, ça, c'est une sorte de vérité ultra nationale, mondiale, souvent sur une base morale et qui utilise la métaphore. La légende se fonde sur un fait, sur un lieu, un fait historique et sur un lieu géographique. Donc on peut à chaque fois que l'on a une légende dire, bon, ben voilà, cette légende, elle a pour point de départ le château où il s'est passé telle chose et telle chose. Hein. Donc en particulier là, dans les ouvrages que je présente une sorte de légende type qui est, je suis trop près, ça fait du bruit, qui est le joueur de flûte de Hameln, malheureusement traduit par Hamelin, ce qui à chaque fois me désole, mais bon, les éditeurs ont des tics, pas tous d'ailleurs, il y en a de temps à autre qui acceptent qu'on leur dise, enfin moi j'aurais préféré qu'on utilise le terme le preneur de rat, tout simplement. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a un fait historique à la base, qui est que au Moyen-Âge, Il y a, en particulier, il y a des seigneurs qui sont des seigneurs sans terre. Et l'un d'entre eux, eh bien, décide de partir avec sa gourme, ça va, et surtout de rafler un certain nombre de jeunes gens dans la force de l'âge et de les emmener avec lui, en direction de la Roumanie. Est-ce que c'est aussi finalisé que ça, pour employer ce verbe d'origine américaine aujourd'hui? Est-ce que ça l'est tout autant? Je l'ignore complètement, parce qu'il y a toujours des faits qu'on ne connaît pas. Et ces jeunes gens, n'est-ce pas, qui disparaissent dans la montagne, eh bien, réapparaissent en Roumanie et sont à l'origine d'une des colonisations allemandes dans la région de Timișoara. Donc on peut les prendre toutes l'une derrière l'autre, et alors là ce sont vraiment, c'est du collectage dans les livres, c'est-à-dire à chaque fois c'est à partir de manuscrits, et en particulier le preneur de rats, ils le tiennent d'un directeur d'école qui avait découvert dans les archives de la ville de Hameln, qui avait découvert dans la chronique de la ville, qui avait découvert ce petit récit et qui donc l'avait publié, et les frères Grimm, enfin Wilhelm Grimm, s'en sont servis, s'en est servi.
Alors ces traditions allemandes sont également là pour le coup tirées de livres, mais là pour le coup on a à chaque fois le livre dont il est tiré. Elles nous permettent, elles sont ces légendes, qui ne sont pas toutes localisées ni datées, loin s'en faut, nous permettent de constater que nous avons les mêmes à la maison. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve des légendes du diable, ce que nous appelons aussi des mémoras, c'est-à-dire des petites histoires, la dame de machin a dit que, la dame de machin a dit que, qui petit à petit s'enquiste et devient une légende, et se trouve relocalisée dans un endroit où, franchement, elle a priori, au départ, elle n'avait rien à faire. Et on retrouve une mythologie. Enfin, le premier tome, ou le tome, je ne sais jamais lequel, enfin, un des tomes est vraiment lié à la mythologie populaire, telle qu'on peut la retrouver dans Sébillio, telle qu'on peut la retrouver dans tous les collecteurs, pour vous, dans Léopold Sauvé, que vous connaissez probablement, qui a collecté les traditions et superstitions des Hautes-Vosges, qui est au 19e, qui doit être, je l'espère, réédité. Et on y trouve, et c'est pour ça que j'en parle, une proximité importante avec les traditions lorraines. Voilà. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ici des fées qui sont des dames vertes, comme en Franche-Comté, et elles sont liées vraisemblablement aux femmes vertes d'Allemagne, de la même façon que les dames blanches alsaciennes sont liées aux femmes blanches d'Allemagne, enfin bon, si on peut faire ce rapport-là. Donc là, on est on est vraiment dans un travail d'universitaire, et là, du coup, on n'est pas dans un, enfin, il ne crée aucun mythe autour de ça. On est bien dans une étude adulte.
Oui, c'est de la compilation en fait. C'est vraiment une anthologie. Ce qui est comme donc, effectivement, c'est le tome 1. Les légendes paraissent en deux tomes aussi, juste après les contes. Et je reviens un instant sur ce que disait François tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit presque en direct comment s'élabore la distinction entre le conte et la légende. Parce que les frères Grimm, dans les préfaces aux contes et dans leurs notes, parlent encore, ils disent « c'est la légende de la Belle au bois dormant ». La Belle au bois dormant, c'est un conte, on est bien d'accord là-dessus. Mais ils disent bien « c'est die Sage vom Dornröschen ». Et c'est seulement après, c'est seulement dans la préface aux légendes qu'ils disent effectivement le conte est plus poétique, la légende est plus historique, et le conte est chez lui en tout lieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas cet ancrage dans la réalité dont on a vu qu'il était vraiment absolument déterminant.
Oui,
donc c'est le tome 1 des légendes qui regroupe tout ce qui est démonologie populaire, sachant que c'est très actuel aujourd'hui. Il y a beaucoup de légendes qui sont attachées à des lieux. Et par exemple, il y a un parc naturel en Hesse, le Meißner, Meißner Gegend, la région de la Meißner, de ce fleuve-là, qui qui vraiment mobilise, c'est la région de Damrolle, celle qui tombe dans le puits, et donc il y a l'étang de Damrolle, etc. Enfin, tout ça est indiqué, on dit que ce serait cet étang-là, et effectivement, dans le recueil, il y a un certain nombre de légendes qui tournent autour de ce thème. Donc on retrouve absolument toutes les configurations, aussi bien les humaines, les femmes qui sont invitées pour aider à l'accouchement chez les nains ou pour être marraines chez les nains à l'intérieur de la montagne. Et effectivement, on retrouve par le biais de renvois aux textes sources, on retrouve effectivement beaucoup de ces croyances qu'on a aussi au Moyen-Âge et qui nous renseignent finalement sur la représentation du monde telle qu'elle était, telle qu'on se le figurait à l'époque médiévale. Les montagnes peuplées de nains, montagnes creuses, etc. Donc vraiment énormément, tous ces éléments-là sont présents. La deuxième partie, alors on a aussi l'empereur Barberousse qui dort dans les montagnes et dont on attend le réveil qui annoncera un nouvel âge d'or, une nouvelle ère pour le peuple allemand. Et le deuxième tome sont des légendes à l'ancrage historique beaucoup plus marqué, vraiment, qui sont attachées à des figures avec lesquelles nous, peut-être, en tant que lecteurs français, pouvons moins nous identifier parce qu'elles sont extrêmement marquées, justement.
Oui, ah oui, là, on est vraiment dans l'histoire, dans les légendes historiques.
C'est sans doute une des raisons pour lesquelles, ces légendes n'ont pas été traduites.
Si, elles sont traduites, moi je l'ai.
1837.
Ah oui.
Moi j'ai l'édition.
Qui est réimprimée d'ailleurs en facsimilé il y a très peu de temps, sans aucun appareil critique, et avec un traitement assez étrange du merveilleux, d'après ce que j'ai.
Il y a une préface dans la traduction de 1837, qui est intéressante. Bon. Oui, peut-être. Nous en avons causé. En tout cas, ce qu'on peut dire, puisqu'il va bien falloir que nous donnions une conclusion à cette table ronde, c'est que même s'ils font des petites erreurs, comme le disait François, sur les définitions du conte, de la légende, etc., même si ils créent du mythe autour de leur travail, on peut leur trouver à ces frères Grimm peut-être des défauts, que sais-je. En tout cas, une chose est sûre, ils sont les premiers. Et à une époque où, a priori, tout le monde se fiche de maintenir cette mémoire vivante. Ils sont les premiers, mais ne seront pas les derniers, puisqu'ils vont être suivis par toute une pléiade de collecteurs à travers l'Europe, collecteurs grâce auxquels aujourd'hui nous connaissons les croyances populaires et les superstitions et les contes également. Merci. Allez, un dernier mot à dire aux frères Grimm. Si tu les avais en face de toi, François, tu leur dirais quoi, là?
Je leur dirais merci pour leur énorme dictionnaire.
Ah oui.
Car au milieu des années 1830-1838, ils se sont lancés dans une entreprise qui est une entreprise unique et qui, à nous germanistes, aujourd'hui continue à nous servir. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans un dictionnaire en 32 volumes qui faisait un état de la langue et selon un principe qui était un principe moderne, c'est-à-dire certes avec un tout petit bout de définition des mots, mais surtout tout un appareil constitué de citations littéraires à travers tous les pays de langue allemande. Et c'est un dictionnaire qu'ils ont commencé, comme je viens de le dire, en 1838, je crois pas me tromper de date. Un dictionnaire en 32 volumes, 67 744 entrées.
Ils n'avaient pas d'ordinateur.
Et qui n'a été achevé qu'en 1960 et dans un cadre politique qui est un cadre politique fort intéressant, c'est-à-dire qu'il a été travaillé et achevé par les deux académies allemandes. Donc l'académie de RFA et l'académie de RDA. Et ce qui est un exemple de collaboration scientifique entre deux États qui, politiquement antagonistes. Hein, ceux qui ont un peu, et vous, je pense que vous avez quelques notions, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé dans cette période, c'est pour moi un des très très grands exemples que nous devons citer. Et nous qui sommes germanistes, eh bien, je ne dis pas que nous consultons tous les jours ce dictionnaire des frères Grimm, mais moi je l'ai dans mes favoris, et je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'aille consulter ce dictionnaire qui a été repris par l'université de Trèves, de Trier. Ouais,
il faut préciser qu'il est accessible en ligne également.
Oui, en ligne,
c'est
oui.
C'est extrêmement, extrêmement précieux. Et finalement, bon, là, ce détail qui n'est pas un détail, justement, ça montre bien à quel point, encore une fois, la langue a servi finalement d'éléments fédérateurs, puisque ça a permis d'achever par-delà les fractures politiques. Et donc même dimension, quand on dit que les frères Grimm ont fait énormément d'émules dans toute l'Europe, l'unité d'un certain nombre de pays d'Europe centrale s'est faite justement en passant par le collectage de ce patrimoine de contes et de traditions populaires. Et il y a un certain nombre de recueils dont le titre même rend hommage au recueil des frères Grimm. Alors certains ont été publiés avec le même titre, Conte pour les enfants et la maison du Tyrol, avec l'autorisation des frères Grimm, donc de leur vivant, donc pour le Tyrol et puis pour l'Autriche. Et par exemple pour les contes serbes, Jacob Grimm a préfacé le recueil de contes serbes alors qu'il a vraiment appelé de ses voeux. Il était également extrêmement impatient, extrêmement désireux de voir publier l'équivalent pour les contes russes. Il faut savoir que ce projet s'est fait également, mais plus tard, un demi-siècle plus tard. Hein, il y a un grand collectage de contes russes. D'ailleurs, je signale au passage qu'il existe en traduction française, traduit par Lise Gruel-Appert aux éditions Imago. C'est la collecte d'Afanassiev. Et la comparaison de ces deux recueils est vraiment particulièrement éclairante. Enfin, le projet, est vraiment, c'est le prolongement. Donc, vraiment, les frères Grimm ont ouvert une grande, grande tradition. Alors, ils ont voulu créer de leur vivant un réseau de collecteurs qui n'a pas pu voir le jour. Mais en tout cas, on voit bien que ça a abouti, en tout cas, dans les pays de langue allemande et dans les pays européens tout au long du XIXe siècle. Et en France, c'est finalement après la défaite de 1870-71... qu'on a un sursaut identitaire comparable, parce qu'en France, on avait Perrault. Donc en France, on n'a pas ressenti ce besoin de collecter les traditions, de collecter les contes locaux. Les collectes régionales commencent à partir des années 1850-1870, et les chercheurs s'en désolent, hein, disant dans les années 50, l'Allemagne a son Grimm, le recueil des Grimm a connu 7 éditions, alors qu'en France, il n'y a pas de recueil vraiment national. Et donc, il faut attendre vraiment la défaite contre l'Allemagne en 1870-71 pour voir les premières grandes collectes régionales qui, malheureusement, donc ce mouvement va malheureusement être mis à mal très fortement par la Première Guerre mondiale. Et voilà, les choses redémarrent ensuite dans les années 1950. Enfin, c'est vraiment...
On aura l'occasion peut-être d'en reparler une autre fois. Pour conclure, donc, François nous a dit, si j'avais les frères Grimm, je leur dirais merci pour votre dictionnaire. Toi, Natacha, si tu les avais en face de toi, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Moi, je leur dirais que j'ai beaucoup pensé à eux, puisqu'en traduisant les contes, j'avais leur portrait face à moi. On m'a envoyé une carte postale en disant, comme ça, si jamais... tu veux leur demander si c'est plutôt comme ça ou plutôt comme ça qu'ils l'entendaient. C'est vrai que c'est... des auteurs extrêmement, extrêmement attachants et dont on devient très proche à force de les fréquenter. Je pense que je leur dirais que j'aurais aimé leur poser beaucoup de questions.
Eh ben, merci à vous deux. Merci à vous pour votre attention.
Et je peux ajouter